partout dans le monde, Amnesty International
continue
avec violation des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er.
Dans la rivière.
Ils sont libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit.
Dans la rivière.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour la dernière émission de la saison, puisqu'on arrive à la fin du mois de juin. Avant, bien sûr, la reprise du mois de septembre, puisqu'on vous nous retrouvera sur l'antenne au mois de septembre. On vous donnera la date tout à l'heure de notre reprise d'émission. Une heure pour parler des droits humains, de l'actualité des droits humains, de tout ce qu'on fait pour les droits humains. Mais ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savez déjà. Voilà, donc pour animer l'émission ce soir, il y a Claire Lise.
Bonsoir.
Et il y a quelqu'un qui n'est pas dans le studio comme l'autre fois, c'est Edith, mais qui nous a envoyé une chronique qu'elle a fait sur la dégradation des droits humains en Tunisie, que vous allez entendre tout à l'heure.
Voilà. Et on peut faire un petit coucou à nos rôdeuses préférées qui sont parties se balader.
Oui.
Et qui vont nous rejoindre dimanche matin.
C'est ça. Donc, ça fait un lien déjà par rapport à ce que je voulais vous dire. Clarlie, j'ai bien compris ton message.
Oui.
C'est que dimanche, effectivement, on fait notre foire aux livres. On fait généralement une foire aux livres début juillet, avant le départ des uns et des autres en vacances. Donc, on fait une foire aux livres au Faubourg Saint-Léger, là, juste devant le local de l'Amnesty International. Et il y a une sirène de pompiers là que j'entends, c'est dehors.
Oui, il fait chaud.
D'accord, c'est ça. Bon, ça m'a perturbé un peu. Et donc j'ai entendu ça m'a perturbé un peu. Donc on fait notre foire aux livres donc dimanche prochain. Dimanche 3 juillet de 10h à 17h sur la place du Faubourg Saint-Léger, juste devant le local d'Amnesty. On vous rappelle que le Faubourg Saint-Léger, c'est à la sortie, au rond-point, à la sortie d'Evreux en direction de Gravigny et Cap-Caire. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, il y a des milliers de livres, hein, effectivement, des milliers de titres
pour tous les goûts, de tout genre. Des romans, des livres de jeunesse, des livres de voyage, de l'histoire. Enfin voilà, les habitués connaissent bien. Et puis si vous voulez des livres, il y a aussi des livres pour enfants. Donc venez, prenez de la lecture pour l'été. Et puis venez aussi signer nos pétitions sur le stand d'Amnesty qui sera aussi sur place.
Tout à fait. Et n'hésitez pas parce qu'il faut effectivement venir nous soutenir et acheter les bouquins. Et déjà le fait d'acheter des bouquins, de toute façon, qui sont vendus à un prix très modique, c'est déjà un soutien par rapport à Amnesty International. Voilà. Donc on rappelle qu'Amnesty effectivement ne se finance que grâce à l'appui du public et avec zéro subvention de toute autorité, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc bon, on vous le redira à la fin, mais déjà cochez sur votre agenda dimanche 3 juillet, 10h-17h, foire aux livres d'Amnesty, oui, j'y vais, voilà, vous marquez ça. Et puis, dernière chose, si vous avez envie de filer un coup de main, encore une fois, n'hésitez pas, parce qu'on a besoin de bras pour monter les tables et sortir les bouquins avant le début de la foire aux livres, donc dimanche matin à partir de 7h30-8h, si vous pouvez, nous on sera là un petit peu avant, et puis aussi le soir pour nous aider à ranger, donc ça, si vous avez envie de mettre la main à la pâte, je dirais, pour la défense des droits humains, vous pouvez aussi le faire de cette façon-là.
Parce voilà. Qu'on a quelques centaines de caisses de livres, et donc on a besoin de bras musclés, jeunes, pour nous aider, parce que nous, on est tous un petit peu plus défaillants, quand même, au niveau de la... Voilà,
de la forme, de l'énergie.
De la forme.
Ben voilà. Oui, tout.
Non, l'énergie, c'est dans la tête, mais dans les bras, il y en a un petit peu moins.
Tout le monde vieillit, c'est sûr. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir dimanche, encore une fois. Ce sera avec le plus grand plaisir qu'on vous accueillera. Mais on va passer au contenu de l'émission. Et je crois qu'il dit que tu voulais nous parler des atteintes au droit à l'avortement. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment.
Oui. Donc, effectivement, vous devez suivre l'actualité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, la Cour suprême a supprimé le droit à l'avortement. Cette décision est un retour en arrière tragique et un mépris total des droits des femmes, des filles et des personnes pouvant être enceintes. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Voici 8 informations clés à connaître sur la répression du droit à l'avortement qui sévit depuis plusieurs années aux États-Unis. Alors, la Cour suprême supprime le droit à l'avortement aux États-Unis, donc c'est une décision historique et rétrograde aux États-Unis qui balaye avec violence des années de lutte et de mobilisation pour les droits des femmes. Amnesty International exprime toute sa solidarité aux associations féministes, aux professionnels de santé et aux femmes que cette décision va impacter. Cette décision pourrait coûter la vie à des millions de femmes aux États-Unis. Sur les 50 États, on estime déjà que 26 vont interdire totalement, ou presque, le droit à l'avortement. Notre combat, aux côtés de nos collègues d'Amnesty USA, continue. Il revient maintenant à chaque État de protéger le droit à l'avortement, qui n'est plus garanti au niveau fédéral. Alors, l'avortement, c'est un droit humain. Alors, effectivement, c'est un sujet éthique. Chacun est libre de ses choix, de ses pensées. Et on respecte aussi les gens qui eux préfèrent ne pas recourir à l'avortement. Mais ce qui est important, c'est que les femmes qui souhaitent le faire puissent le faire et que leurs droits soient garantis à elles. Donc la Cour suprême des États-Unis a décidé de revenir sur ce droit et cette décision n'est pas sans impact. Il n'y a plus aucune protection de ce droit au niveau fédéral aux États-Unis et concrètement, chaque État peut donc choisir s'il garde le droit à l'avortement ou non. Et donc, c'est la moitié des États qui pourraient le supprimer totalement ou presque. Et ce serait un désastre pour les droits des femmes dans le pays. Alors, c'est un processus de longue haleine. Et Didier, tu m'en parlais tout à l'heure, hein, parce qu'en 1973, la Cour suprême des États-Unis statuait que l'avortement était légal en rendant l'arrêt historique. Alors, Roe v. Wade, et depuis lors, les militants et les responsables politiques opposés à l'avortement se mobilisent en vue de faire annuler cette décision, et nous assistons aujourd'hui aux fruits de ce travail. Les attaques contre l'arrêt rendu dans l'affaire Roe se sont intensifiées lorsque le président Donald Trump a nommé deux nouveaux juges à la Cour suprême, tous deux ayant exprimé des opinions hostiles à l'avortement. En 2022, la Cour suprême devait rendre sa décision, et nous pourrions nous retrouver, face au pire des scénarios, l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade. Toutefois, il faut savoir que la loi n'est pas le seul facteur qui détermine si les femmes peuvent avoir accès à l'avortement. Depuis 1973, les militants anti-choix rognent progressivement sur cette décision, notamment en érigeant des obstacles financiers ou logistiques, rendant ainsi cet accès difficile, voire impossible, en dépit de ce que dit la loi. Tu voulais revenir un petit peu sur la Cour fédérale?
La Cour suprême, tu veux dire?
Oui, c'est ça.
Ben oui, en fait, parce que je me suis renseigné, on en parlait un petit peu tout à l'heure en préparant l'émission avec Clarly, je me suis renseigné sur sur quoi reposait cet arrêté là, de 1973 qui considérait que le droit à l'avortement était un droit constitutionnel, donc il s'imposait à l'ensemble des États, puisque les États-Unis sont un État fédéral, on le rappelle. En fait, ça reposait sur deux notions de la Cour suprême de l'époque émise par les juges. La première, c'est que limiter le droit à l'avortement était une atteinte aux libertés personnelles, aux libertés privées, de la vie privée, première considération, donc qui sont garanties par la Constitution. C'était la première chose. Et la deuxième raison, c'était que, évidemment, que l'avortement ne s'adresse qu'aux femmes, puisque seules les femmes peuvent être enceintes, c'est une vérité de la police, et que donc ça créait une différenciation, enfin une non-égalité, si on peut dire, entre les femmes et les hommes, parce que les hommes ne seraient jamais concernés par le fait d'avoir droit ou non de recourir à l'avortement. Donc c'était pour ces deux raisons, égalité homme-femme et atteinte aux libertés personnelles, que la Cour suprême en 1972 ou 13, je ne sais plus, 73, a publié ce décret, donc qui s'impose à l'ensemble des États américains, qui s'imposaient, puisque la Cour suprême, la nouvelle Cour suprême avec les nouveaux juges, vient de revenir en arrière.
Voilà. Et donc, je vous disais que les militants, depuis 1973, les militants anti-choix, font tout pour qu'il y ait des difficultés d'accès à l'avortement. En prenant l'exemple de l'Alabama, par exemple, donc en mai, le gouverneur de cet État a promulgué une loi draconienne permettant de condamner à la réclusion à perpétuité les médecins qui pratiquent des avortements. Pourtant, dans la pratique, l'avortement est déjà inaccessible pour de nombreuses femmes en Alabama. Alors, l'Institut Guttmacher a révélé qu'en 2014, 93% des comtés de l'Alabama ne disposaient pas de cliniques réalisant des avortements. Ainsi, la plupart des habitantes de l'Alabama doivent-elles se rendre dans d'autres États pour avoir accès à l'avortement. Même ainsi, de nombreuses femmes n'ont pas les moyens de mettre un terme à leur grossesse. Donc, il n'y a pas assez de cliniques qui pratiquent l'avortement. 6 États américains ne disposent que d'une seule clinique pratiquant des IVG. 26 grandes villes des États-Unis et une grande partie de l'Amérique rurale sont des déserts en termes d'avortement. La plupart des habitants vivent à plus de 160 km d'un tel service. Donc aux États-Unis, la plupart des habitants sont très très éloignés des services médicaux. Et l'un des moyens pour les militants anti-choix, c'est d'oreiller de la carte des services essentiels. Ça consiste à réglementer de manière ciblée ceux qui réalisent des avortements via la loi TRAP. Alors, Targeted Regulation of Abortion Providers. Je suis désolée pour mon anglais. Je vois Didier qui se marre, mais bon,
non,
voilà.
Mais c'est pas si mal.
Je pratique l'anglais, mais avec des Nigériens. Donc, oui, ça n'arrange pas mon accent.
C'est ça.
Il s'agit de critères d'enregistrement tatillon qui font qu'il est difficile pour ces services de rester ouverts. Par exemple, les autorités de l'État peuvent préciser de quelle largeur doivent être les couloirs dans un bâtiment où les médecins pratiquent des avortements, la taille des places de parking ou la distance qui doit séparer ces locaux d'une école. Ces normes n'ont rien à voir avec la sécurité des patientes. Elles visent à exercer une telle pression sur les services réalisant des avortements qu'ils sont contraints de fermer. Donc certains États ont déjà interdit l'accès à l'avortement. Et donc depuis le début de 2019, 28 États américains ont introduit plus de 300 nouvelles règles afin d'en limiter l'accès, incitant ainsi la Cour suprême à revenir sur l'arrêt Roe, introduit en 1973. Donc, le Missouri souhaite poursuivre les médecins qui pratiquent l'IVG après 8 semaines de grossesse. La Géorgie l'interdit dès le premier battement de cœur du fœtus. L'Alabama, totalement, y compris en cas de viol ou d'inceste. Au Texas, à cette date, la plupart des personnes concernées ne savent pas encore qu'elles sont enceintes. Cette loi va même plus loin avec une disposition sans précédent en criminalisant toute personne qui aiderait une autre à avorter. Cela signifie que les centres de santé et leur personnel risquent d'être poursuivis en justice, tout comme les membres de la famille ou les amis. Des milliers de manifestants pro-avortement se sont réunis à Austin pour protester contre la nouvelle loi sur l'avortement au Texas le 29 mai 2021. Donc ces nouvelles lois se traduisent par des lésions et des décès, c'est-à-dire les lois anti-avortement ne se traduisent pas par une réduction ni par une disparition des avortements, elles les rendent simplement plus dangereux. Lorsqu'ils sont pratiqués avec l'aide d'un professionnel de santé qualifié dans de bonnes conditions d'hygiène, les avortements comptent parmi des actes médicaux disponibles les plus sûrs. Cependant, lorsqu'ils sont restreints ou criminalisés, les femmes sont contraintes de rechercher des moyens moins sûrs pour mettre un terme à leur grossesse. Dans le monde, on estime que 5 millions de femmes sont hospitalisées chaque année à la suite de complications liées à un avortement et qu'environ 47 000 en meurent. Vous avez vu aussi toutes ces manifestations de femmes qui redoutaient justement la décision de la Cour suprême et qui manifestaient avec un cintre dans la main. Cintre, c'est le symbole un petit peu de ces avortements clandestins et dangereux. On estime que 5 millions de femmes sont hospitalisées chaque année pour être soignées pour des complications liées à un avortement et qu'environ 47 000 en meurent. Les États-Unis donc ont le taux de mortalité maternelle le plus élevé de tous les pays développés. Les États dotés des lois sur l'avortement les plus restrictives présentent déjà des taux plus élevés de mortalité infantile et maternelle. C'est pourquoi ces nouvelles lois mèneront droit au désastre s'agissant de la santé des femmes. Ce sont aussi des lois discriminatoires puisque les femmes et les jeunes filles à faible revenu, adolescentes, femmes de couleur, migrantes et réfugiées, notamment, sont les plus durement touchées par les restrictions en matière d'avortement puisqu'il leur est plus difficile de s'acquitter de frais, de se rendre à l'étranger ou de s'absenter de leur travail. Les Afro-Américaines ont trois ou quatre fois plus de risques de mourir pendant leur grossesse ou leur accouchement que les femmes blanches aux États-Unis, et cette inégalité honteuse risque fort de s'aggraver du fait des nouvelles lois qui rendent la grossesse plus dangereuse. Ces lois sont un coup dur pour les droits humains, pour les femmes, dont les droits ont été gravement mis à mal sous le gouvernement de Trump. Les personnes transgenres aux États-Unis sont déjà confrontées à de nombreux obstacles pour accéder aux services de santé en matière de procréation, et cette série de nouvelles lois ne fera que les exclure davantage. Donc ensuite, les législateurs qui imposent ces restrictions excessives à l'accès de l'avortement ne représente pas l'opinion de la majorité des Américains. En fait, 80% des Américains souhaitent que l'avortement demeure sûr et légal. Un sondage en 2022 révèle que les deux tiers des Américains pensent que l'avortement devrait être légal dans tous ou dans la plupart des cas, et 77% s'opposent à l'annulation de l'arrêt Roe. Donc des militantes et militants pour le droit à l'avortement manifestent depuis plusieurs années devant la Cour suprême des États-Unis à Washington. Malheureusement, la décision est tombée cette semaine. Mais le combat n'est pas terminé. Donc, alors que les mesures de dépénalisation et de législation de l'avortement prises ces dernières années dans les pays comme l'Argentine, l'Irlande, le Mexique et la Colombie ont constitué une énorme victoire pour la communauté internationale, il est clair que les États-Unis ne sont pas en phase avec les progrès réalisés par le reste du monde en matière de protection des droits sexuels et reproductifs. Si elle est confirmée, la décision de la Cour suprême de supprimer le droit à l'avortement serait un retour en arrière tragique. Qui sait ce que cette décision pourrait inspirer à d'autres gouvernements opposés à la protection de ce droit ? L'annulation de l'arrêt Roe pourrait devenir le symbole d'une réaction brutale dans le monde entier, mettant en péril les progrès récents et mettant en danger la santé et la vie de millions de personnes, de femmes. Les mobilisations vont donc se poursuivre partout dans le monde. Des milliers de personnes ont pris part à des rassemblements coordonnés pour demander aux États de mettre fin aux interdictions, et des citoyennes et des citoyens du monde entier continuent de faire entendre leur voix pour défendre les droits en matière de santé sexuelle et reproductive.
Voilà. Merci Carlis pour ce tableau complet de la situation de retour en arrière sur les droits à l'avortement aux États-Unis. Juste pour compléter en quelques mots ce que tu viens de dire, parce qu'Amnesty, on sait bien de s'informer et de comprendre ce qui se passe, mais c'est aussi important d'agir. Donc vous avez une possibilité pour agir, c'est pas sur le site d'amnesty.fr, mais c'est sur le site du secrétariat international qui est amnesty.org, et vous prenez la version française. Si vous descendez sur la page d'accueil, vous avez une possibilité pour être connecté avec le site des États-Unis, le site d'Amnesty de la section nord-américaine, et qui a prévu un mail de tout près, en anglais bien sûr, un mail tout près à envoyer aux différents gouverneurs des différents États des États-Unis pour témoigner votre indignation par rapport à ce qui vient d'être décidé par la Cour suprême. Donc n'hésitez pas à le faire, ça marche, hein, même si vous êtes en France, vous remplissez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre pays, et ça passe sans aucun problème, et ce sera ajouté au courrier généré et envoyé par Amnesty International USA. Donc n'hésitez pas à le faire sur le site de amnesty.org, vous pouvez aussi le faire directement sur le site américain, qui est amnestyusa.org. Voilà. Mais n'hésitez pas à le faire, parce que la pression effectivement est montrée notre colère par rapport à ce retour en arrière d'au moins 150 ans, comme a dit le président actuel, Joe Biden, de la législation américaine. C'est quand même scandaleux. Voilà. On va passer une pause musicale. On va changer un petit peu ce qu'on avait prévu de faire. Voilà.
On est comme d'habitude plus bavard.
Voilà. Mais on va faire la première pause musicale et on se retrouve après. Et en fait, juste après, c'est Edith qui va vous parler de la Tunisie.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras, le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas, parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, barbelé, aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France, je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, ont fini naufragés, solitaires, exilés, volontaires. Ciel bas de novembre encore pose ses mains sur moi. Bout de fer et de sang dans la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie, juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission sur les droits humains. Et là, on vient d'écouter Bernard Lavilliers, une chanson qui s'appelle L'Exil. Les deux morceaux qui vont illustrer l'émission de ce soir sont consacrés aux réfugiés et aux droits des réfugiés, parce que vous savez sans doute que le 20 juin, c'est la journée mondiale pour les droits des réfugiés et des migrants. Et donc on ne va pas trop vous en parler à l'émission de ce soir, mais restez à l'écoute, on va vous annoncer tout à l'heure. On fait une émission spéciale, Fréquence Droits Humains, sur le même sujet, le jeudi prochain, le jeudi 30. Donc restez à l'écoute, vous en saurez plus tout à l'heure. Et tout de suite, on écoute effectivement Edith et sa chronique sur la Tunisie.
Oui, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la Tunisie. La Tunisie pour laquelle on se pose beaucoup de questions depuis que l'actuel président Kais Saied concentre tous les pouvoirs. La Tunisie redeviendrait-elle un État policier ? Kais Saied a été élu à la tête de la Tunisie en 2019 et il est en train de se muer en un espèce de leader populiste et illibéral. 25 juillet dernier, après des mois de paralysie politique, il instaure l'état d'exception, ordonne la fermeture du Parlement, lève l'immunité des députés et suspend la Constitution. Depuis, il gouverne seul, ou presque, à coups de décret et en s'appuyant sur son appareil autoritaire, sécuritaire. Le 30 mars, il démenait les députés de leurs fonctions sans s'engager sur la tenue d'élections législatives anticipées, comme le demande la Constitution de la Tunisie. Et pour justifier ces mesures, il dit vouloir restaurer la souveraineté du peuple et lutter contre la corruption. Et dans des discours virulents, souvent décousus, il fustige les insectes, termites, qui corrompent la nation. Un ancien ministre qui préfère garder l'anonymat commente « Le gars est dans une sorte de délire. Il décrit les partis politiques comme un cartel de narcotrafiquants. Et lui, il se voit sauveur de la patrie et n'admet aucune contradiction. » Il a aussi dissous le Conseil supérieur de la magistrature, un des acquis très importants de la Révolution car cela permettait une justice indépendante. Il s'arroge une partie des prérogatives de ce conseil. Il peut maintenant révoquer les juges et indirectement les nommer. L'homme concentre maintenant tous les pouvoirs. Donc, l'association des magistrats tunisiens, dont fait partie Randa Karafi, est très inquiète. Elle dit « On se croirait revenu à la situation qui prévalait sous Ben Ali. On sait que certains d'entre nous risque d'être limogé afin de faire taire les autres. » Cette situation de peur transparaît dans le pays. Lamine Benghazi, d'Avocats sans frontières, dit « Avant le 25 juillet dernier, on embêtait les barbus. Maintenant, ce sont aussi les fonctionnaires, les politiques. Le spectre s'est élargi. » De ce champ de ruines, c'est aussi la police qui règne en maître. C'est elle qui a empêché les membres du Conseil supérieur de la magistrature d'accéder à leur bureau. Elle détient aussi tous les dossiers de carrière de tous les juges. Elle occupe aussi le siège de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, un autre organisme qui était indépendant et qui a été suspendu. La police, ils se sentent plus forts que jamais, assure Audrey Pluta, qui prépare sa thèse à Sciences Po Aix sur l'appareil sécuritaire. Et elle dit que c'est une revanche sur ces vaincus de la Révolution. Les policiers n'ont plus peur de rien, mais leur ADN reste inchangé. Ils n'ont pas subi de purge depuis la Révolution, ni modifié leur mode de recrutement. Si pendant 10 ans, ils ont renoncé à certaines méthodes, ils se sentent maintenant de plus en plus forts maintenant que la donne a changé. Et leur naturel est en train de revenir. Anna Gelani d'Amnesty rajoute « L'absence totale d'un contre-pouvoir ne peut que renforcer le sentiment d'impunité et encourager les violences policières. » Alors, je vais vous lire le témoignage d'un activiste d'un mouvement LGBT, Baadou, qui se trouve en première ligne. Lui, il a été poursuivi par des policiers un soir en 2021. Deux hommes, l'un en uniforme, l'autre en civil, l'ont abordé. « Alors, tu insultes la police et tu te portes plainte contre nous ?» leur lui lance-t-il. Il le traîne dans une ruelle et commence à le frapper méthodiquement, au visage, sur le corps, à coups de poing et de bottes cerclées de métal. Il lui dérobe son portefeuille, son ordinateur, son téléphone. Et lorsqu'un passant tente d'intervenir, il ne cherche pas à se cacher, il crie haut et fort « Police !» Voilà où est-ce qu'on en est actuellement en Tunisie. Et c'est bien triste de voir ce pays qui était l'une des seules démocraties du monde arabe changer complètement de visage. Donc cet article, enfin ces infos que je vous donne que j'avais choisi dans la chronique du mois de juin, où il y a au moins 3 articles, dont un écrit par le journaliste Christophe Boltanski, qui lui avait été agressé en 2005 sous Ben Ali et qui est revenu en Tunisie pour voir un peu comment allait le pays et qui malheureusement retrouve des mêmes dérives, surtout au niveau de la police. Voilà, ces dernières infos un peu, soucieuses.
Donc, merci Edith pour cette chronique sur la Tunisie que tu nous as renvoyée. Et on rappelle aux auditeurs, mais vous le savez, je pense déjà, que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. Voilà. Moi, je vais vous parler d'un tout autre sujet, mais c'est aussi tiré de la chronique, c'est un petit dossier et qui s'appelle le délit de faciès. Ça vous dit peut-être quelque chose, on en a déjà parlé dans certaines de nos émissions, et c'est le fait que, selon que vous soyez blanc bien français, je dirais, ou pas, vous n'êtes pas arrêté de la même façon par la police, enfin, vous n'êtes pas contrôlé de la même façon par la police, et vous avez en fait des régimes différents par rapport aux vérifications d'identité, ce qui est une atteinte une forme de discrimination et une atteinte aux libertés et à l'égalité entre nous. Donc Amnesty a porté plainte auprès du Conseil d'État depuis l'année dernière avec d'autres associations pour demander, on n'a pas encore la réponse, ça traîne, mais pour demander que les lois soient passées pour qu'effectivement il n'y ait plus ce délit de faciès et que les contrôles de police soient faits en conformité avec le droit et le droit international qui l'interdit. Voilà. Alors je vais vous parler de ce petit dossier. Bon, je vais résumer un peu, bien sûr, ce dossier parce qu'il est assez long. Mais voilà comment ça commence. La dernière élection présidentielle l'a bien montré. Les discours toxiques se propagent dans le débat politique français. Des propos discriminatoires liés à l'origine réelle ou supposée des personnes ont ainsi été tenus par certains candidats et candidates, repris en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ces propos portent atteinte aux droits fondamentaux de millions de personnes dans le pays. Des paroles et malheureusement des actes. Depuis des décennies, de nombreuses enquêtes pointent l'existence de contrôles d'identité discriminatoires en France. Leurs conclusions sont sans appel. Les contrôles visent principalement les jeunes hommes noirs, arabes ou perçus comme tels. Les discriminations sont l'exacte traduction de l'injustice. Traiter différemment des personnes qui sont pourtant dans des situations identiques est inacceptable, quelles que soient les raisons. Même si des lois racistes ont été abolies dans de nombreux pays, le racisme continue d'exister et des discriminations raciales ont encore lieu partout dans le monde et dans tous les secteurs de la vie quotidienne, à l'école, au travail, dans la rue, etc. En France, le contrôle au faciès est une pratique généralisée. La principale manifestation des discriminations raciales, elle est induite dans le fonctionnement même de la police et de ses pouvoirs et de ses missions. Pourtant, les contrôles d'identité fondés sur la race, l'origine ethnique ou la couleur de peau sont illégaux. Cette pratique nie la dignité des personnes contrôlées et viole leurs droits fondamentaux. Respect de la dignité humaine, égalité de tous devant la loi, liberté d'aller et venir, etc. C'est une discrimination systémique. Pour y mettre un terme, la réponse doit aussi être systémique. Autrement dit, c'est à la société dans son ensemble d'intégrer des nouveaux schémas de pensée et de dépasser les stéréotypes qu'elle peut avoir. Puis c'est à l'État de mener des politiques volontaristes respectueuses des droits humains et fidèles au principe d'égalité entre les individus, quels qu'ils soient. Dans le racisme, il y a une part très importante de stéréotypes et de préjugés. Les stéréotypes sont des idées reçues qui véhiculent ou renforcent des images fausses ou simplifiées de certains groupes. Au fil du temps, certains stéréotypes se sont ancrés durablement dans les mentalités. Les stéréotypes favorisent les préjugés, autrement dit, les jugements a priori. Des opinions toutes faites qui provoquent des sentiments comme la méfiance, la peur, la haine ou le rejet des populations ciblées. Au quotidien, les préjugés se manifestent sous plusieurs formes, conscientes ou inconscientes. Les plus ordinaires sont les micro-agressions, à savoir toutes ces petites questions, commentaires, remarques ou regards déplacés. Par exemple, c'est quand on demande à une personne noire si elle parle bien le français, alors qu'elle est française depuis plusieurs générations. La personne qui le dit n'a pas forcément conscience que c'est une forme de racisme, mais c'est une façon de raciser l'autre que de tenir de tels propos. Ces discours sont toxiques. Leurs fondements peuvent être historiques et culturels, mais ils reposent avant tout sur un ensemble de croyances et de stéréotypes. Mis bout à bout, ces discours deviennent insupportables pour celles et ceux qui les subissent. En France, depuis 20 ans, les forces de l'ordre répondent à une politique du chiffre. La police pense que les Noirs et les Arabes sont les plus susceptibles d'avoir de la drogue ou de ne pas avoir de papier sur eux, même si ce n'est pas du tout prouvé dans les faits, constate Isaac Koulibaly, le président de l'association Papadza Belleville. Le racisme devient systémique quand les institutions, des lois et des politiques publiques entretiennent un système discriminatoire qui privilégie certains groupes et en opprime d'autres. Selon les apparences physiques, les contrôles discriminatoires d'identité, dit contrôle au faciès, sont les principales manifestations de ce racisme systémique. Alors, petit commentaire vécu. J'ai été posté à la gare du Nord de Paris. Je chargeais mon téléphone. Là, une patrouille de police arrive et me contrôle sans raison. Un policier m'insulte de bougnoule et me met un coup de poing dans le ventre, raconte Iles, un jeune comédien. Voilà, bon, ça c'est un extrait du dossier. Il y a bien d'autres choses. Bon, je voulais vous lire aussi, mais on va manquer de temps, une pensée d'un philosophe qui illustre ce dossier. Ce dossier, vous le trouverez dans la chronique du mois de juin, la chronique d'Amnesty International du mois de juin. Et son petit commentaire, c'était effectivement la différence, quelle différence. Mais bon, ça va nous emmener, je regarde la pendule, ça va nous emmener un petit peu trop loin. Et je vais juste conclure, encore une fois, qui est encore une fois un tout petit aperçu de ce dossier, mais je vais juste conclure effectivement ce qui est dit, parce que ça c'est important. Si vous êtes vous-même victime ou témoin de discrimination raciale, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes contrôlé, restez calme. Un acte de rébellion ou d'outrage, se débattre, insulter, menacer, etc., peut vous conduire en garde à vue. Notez impérativement la date, l'heure et le lieu du contrôle, avec photo si possible. L'identité des agents, le numéro de matricule, le nom ou des informations permettant de les identifier comme la taille, la morphologie, la couleur et la coupe de cheveux, etc. Le contexte, à savoir ce qui se passait au moment du contrôle et la description de celui-ci, s'il y a eu palpation, fouille, insulte, coup, etc. Les coordonnées des témoins présents afin de pouvoir les recontacter. Pour faire valoir vos droits, vous pouvez déposer plainte dans un commissariat ou auprès de l'IGPN pour la police ou de l'IGGN pour la gendarmerie et saisir gratuitement le défenseur des droits. par téléphone au 3928, par le chat en ligne sur antidiscrimination.fr, antidiscrimination tout attaché au pluriel.fr, physiquement dans les points d'accueil où sont présents les juristes des défenseurs des droits. Pour trouver celui le plus proche de chez vous, rendez-vous sur antidiscrimination.fr et trouvez de l'aide près de chez soi. Petit commentaire personnel, il y a un défenseur des droits à la préfecture d'Évreux. Donc si jamais vous êtes effectivement en situation de contrôle au faciès et victime d'exaction de la police, vous pouvez effectivement le contacter. Vous trouverez ses coordonnées sur le site de la préfecture d'Évreux. Si vous êtes témoin d'un contrôle, notez également l'apparence de la personne contrôlée, le contexte, c'est-à-dire si les policiers ne contrôlent que des personnes d'une certaine apparence physique. Vous pouvez aussi enregistrer la scène, images et sons. Voilà. C'est des petits moyens, effectivement, à connaître et à conserver si jamais vous êtes victime de ces contrôles au faciès. Donc, je vous renvoie pour lire tout le dossier, parce que là, il y a plein de choses que je voulais vous dire, mais que je n'ai pas dit, pour lire tout le dossier sur le numéro de juin de la chronique d'Amnesty International France. Voilà. Et aussi, on vous rappelle que donc, Amnesty a porté plainte auprès du Conseil d'État par rapport à ces pratiques policières abusives et qu'on attend toujours, la plainte a été déposée l'année dernière, qu'on attend toujours la réponse du Conseil d'État qui traîne, il faut bien le dire. Voilà. Et je crois que, Claire-Lise, alors si je ne me suis pas trompé, on voulait passer du contrôle des faciès à la prison.
Oui, c'est ça. Alors tout à l'heure, on disait qu'il faisait chaud parce qu'en fait, Didier s'étonnait parce qu'il entendait une sirène et c'était dehors. C'était du bruit dehors parce qu'on a ouvert les fenêtres parce qu'il fait très chaud dans le studio. Et il fait très chaud dans le studio et une petite pensée pour tous les gens qui sont emprisonnés en France dans des conditions de détention difficiles et surpeuplées. Et quand il fait chaud, on sait que c'est des moments où il y a des tensions encore plus importantes dans les prisons. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe. Donc, y a un rapport, hein, l'Observatoire international des prisons, l'OIP, pointe l'inefficacité des mesures prises par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de détention. Surpopulation endémique, insalubrité de nombreux établissements, augmentation des violences. C'est le bilan sévère dressé par l'Observatoire international des prisons dans son rapport sur l'état des conditions de détention en France. Un rapport qu'Amnesty International soutient. Donc il y a un décryptage au cœur des prisons françaises. Donc depuis le 30 mai 2020, la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, pour ses prisons indignes. L'État français était sommé de prendre des mesures pour mettre un terme à la surpopulation carcérale. 2 ans après, quelle est donc la situation dans les prisons françaises ? Eh bien, les prisons sont surpeuplées. En mai 2022, 71 038 personnes étaient détenues en France et le taux d'occupation moyen en maison d'arrêt était de 138,9%. C'est-à-dire qu'il y a 40% de personnes qui sont en plus. Donc, plus d'un détenu sur deux vit dans des prisons occupées à plus de 120%. Dans l'Observatoire international des prisons, les conséquences de cette surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt sont détaillées. Promiscuité, manque d'intimité, non-séparation des différentes catégories de détenus, augmentation des tensions et des violences. Donc les détenus sont contraints de dormir à 2, 3, parfois 4 dans une même cellule. Nous sommes 3 en cellule et je dors à même le sol dans un espace de 6 mètres carrés, dit un prisonnier. Et nous sommes enfermés 22 heures sur 24. Voilà. Donc, la détérioration, on note aussi la détérioration des conditions de détention. Donc, l'Observatoire international des prisons fait état des conditions de vie dégradées et indignes dans les établissements pénitentiaires français, dont une proportion importante est vétuste et insalubre, du fait notamment d'un sous-investissement immobilier chronique, de défauts de conception et du manque d'entretien. Alors, un détenu dit « L'hiver, j'ai les cervicales qui se bloquent à cause du froid en cellule. Je suis obligé de mettre 2 pyjamas, un peignoir et un bonnet pour me réchauffer. Les murs sont mouillés d'humidité. » Ça, c'est une femme incarcérée qui témoigne. « Alors, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je n'en peux plus. Des rats. Je n'arrive pas à dormir. Les cafards, les insultes entre détenus. J'ai peur. » Voilà. Ça, c'est des réflexions d'un détenu de la prison de Fresnes en septembre 2021. Alors, il y a une mauvaise prise en charge des détenus aussi. Hein, donc, le rapport révèle aussi la détérioration importante des conditions de prise en charge des personnes détenues, les carences en matière d'offres d'activité et de travail, de préparation à la sortie, de prise en charge sanitaire et les conséquences sur l'insertion ou la réinsertion. Donc, la situation s'est aggravée par la surpopulation des prisons et 2 ans de crise sanitaire dont les effets sont venus bouleverser le quotidien des personnes détenues et de leurs proches. Un détenu dit « 2 ans sans toucher ma fille de 3 ans, sans se faire un câlin, c'est inadmissible », confiait donc à l'Observatoire des prisons une femme détenue à Saint-Denis de La Réunion. Alors, il y a un manque d'action politique. Donc, les réformes engagées en matière pénale et pénitentiaire avant et après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme ne permettent pas de juguler l'inflation carcérale, voire au contraire, y contribuent. Faute d'une politique volontariste, le nombre de prisonniers n'a cessé de croître dès la fin du premier confinement en juin 2020. Et si des réformes ont été engagées, elles passent largement à côté des facteurs à l'origine de l'inflation carcérale. Dans son rapport, l'Office international des prisons en pointe les limites, ainsi que celles de la politique à la fois coûteuse et inefficace qui consiste à accroître de manière continue le nombre de places de prison. Il déplore également l'impuissance des tribunaux à obtenir de l'administration qu'elle exécute les injonctions qui lui sont faites, alors que se multiplient les décisions de justice constatant l'indignité des conditions de détention et exigeant que soient prises en urgence des mesures pour y mettre un terme. Donc le constat dressé par l'Observatoire n'est malheureusement pas nouveau. Il est aussi largement partagé. Ces 2 dernières années, le Comité européen pour la prévention de la torture, le contrôleur général des lieux de la privation de liberté et la Commission nationale consultative des droits de l'homme sont tour à tour venus tirer la sonnette d'alarme sur l'état des prisons françaises et leur surpopulation, se faisant écho de la décision il y a 2 ans de la CEDH, avec laquelle la France ne s'est toujours pas mise en conformité. Donc notre appel d'Amnesty, c'est l'appel à un plan d'urgence contre l'indignité, face à une situation chaque jour de plus en plus intenable, et alors que s'ouvre une nouvelle séquence politique, il y a urgence à ce que les pouvoirs exécutifs et législatifs assurent enfin le respect des droits fondamentaux en prison. Donc, avec l'Observatoire international des prisons, Amnesty International appelle à la mise en œuvre d'un plan national d'action contre la surpopulation des prisons, la dépénalisation de certains délits, la réduction du recours à la détention provisoire, la révision des conditions de jugement et de l'échelle des peines, le renforcement des alternatives à l'emprisonnement, mesures non privatives de liberté. Donc la mise en place d'un mécanisme contraignant de régulation carcérale. Donc une réorientation des budgets alloués à l'accroissement du parc carcéral qui devrait plutôt être affecté à l'amélioration des conditions de détention et au renforcement des alternatives à l'incarcération. Voilà. Donc c'est un rapport que vous pouvez trouver sur le site d'Amnesty. Et donc Amnesty soutient effectivement les actions à mettre en place.
Oui, tout à fait. Et il faut rappeler aussi que par rapport aux enquêtes qui sont faites au niveau de la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne, enfin, etc., et de différentes instances officielles, la dégradation du respect des droits fondamentaux dans les prisons françaises s'aggrave régulièrement et les rapports sont de plus en plus alarmistes. Et je crois que la France a été condamnée à plusieurs reprises à des amendes, d'ailleurs, parce qu'elle ne respecte pas le droit européen par rapport aux conditions de détention et que les choses s'aggravent. Encore une fois, quand on est emprisonné parce qu'on a commis un délit, on est quand même détenteur de droits humains et que ce n'est pas une raison pour que ceci ne soit pas respecté de façon la plus correcte possible. Voilà. On va, parce que l'heure tourne, toujours.
Regarde, on est bien là.
Oui. On va passer à la deuxième pause musicale et après on va parler pas mal de notre actualité locale et de ce que vous pouvez faire aussi pour continuer à soutenir Amnesty pendant vos vacances d'été. Voilà. Donc, pause musicale.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis? ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir, tous autour de moi se force à sourire. L'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. Ce que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, c'est Amnesty International et c'est Claire Lise qui va vous faire des commentaires sur ce qu'on vient d'entendre.
Alors, on vient d'entendre Juliette Noureddine. C'est une grande chanteuse française. Alors, on la voit jamais à la télé parce que forcément, elle est pas dans les hits principaux. Mais c'est une magnifique voix. C'est quelqu'un qui joue du piano, qui compose ses chansons. On a eu la chance de la voir il y a 2 ans, oui, en 2020, au Cadran, à Évreux. Ouais, ça fait partie. Il y a des journées comme ça où, bon, il y a des gros malheurs et puis il y a des petits bonheurs. Ben, mon petit bonheur de la journée, c'est d'avoir entendu Juliette vous chanter Aller sans retour. C'est une magnifique chanteuse et je vous invite parce que là, la chanson est un peu lente, ça fait un peu concertiste. Elle a une voix magnifique. Elle peut avoir une voix d'opéra, mais elle peut aussi avoir une voix très rock. C'est quelqu'un, c'est une artiste complète qui est capable de vous faire des chansons un peu, comment dire, dans le style des années 30, mais qui vous fait aussi des chansons très humoristiques. C'est vraiment une artiste complète et je vous engage à découvrir ses chansons parce que c'est une merveille.
Voilà.
Et elle a fait d'ailleurs un album qui s'appelait Les Merveilles de Juliette.
Voilà. Et le titre de la chanson, ça, on ne vous l'a pas dit.
Si, je l'ai dit. Aller sans retour.
Pardon, tu l'as dit, excuse-moi. Mais c'est aussi une chanson consacrée aux droits des réfugiés et des migrants, puisque c'est le mois de juin et le mois de la Journée internationale des réfugiés et des migrants. Et à ce propos, je pense qu'on peut en parler tout de suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clarisse.
Oui,
à ce propos,
allez,
voilà.
On embraye sur notre émission.
D'accord.
Jeudi prochain.
Donc, on n'a pas beaucoup parlé, effectivement, volontairement ce soir de cette thématique. Ce n'est pas les sujets qui manquent, de toute façon, mais on n'a pas volontairement parlé beaucoup de cette thématique, puisque jeudi, restez aussi à l'écoute de Principe Actif entre 18h et 19h30, puisqu'on a une émission spéciale Fréquence Droits Humains sur justement la thématique des réfugiés, des droits des réfugiés. Donc, avec pas mal d'invités, mais je pense que Claire Lise est mieux placée que moi pour nous dire tous les gens qui vont y participer.
Alors, cette année, on a déjà fait une d'ailleurs, la première émission de Fréquence Droits Humains, c'était sur le thème des réfugiés il y a deux ans, en juin 2020 ou 2019
2019,
puisqu'on a pris du retard dans nos émissions
à cause de la pandémie. Oui.
Et donc, c'était sur le thème des réfugiés. Donc, à l'époque, il y avait eu David Boyle, il y avait eu Hélène Henry de la Fédération des Droits de l'Homme. On avait invité quelqu'un du réseau d'éducation sans frontières. On avait eu aussi des témoignages, des gens qui étaient venus. Il y avait eu beaucoup de partage sur cette émission. Et cette année, on a invité, parce qu'on a, au niveau local, moi, vous savez, je fais partie du CFEDASTI, donc j'accompagne des personnes migrantes tout au long de l'année, en plus de mon engagement à Amnesty. On a décidé de faire venir aussi des gens qui sont mandatés par l'État français pour accueillir les migrants, pour accueillir les personnes qui demandent d'asile. Donc, il y aura des gens de France Terre d'Asile qui seront là. Donc, la directrice du CADA de France Terre d'Asile à Évreux, donc Sophie Bouquet-Duménil, et sans doute une personne aussi de la SPADA, donc de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile qui est rue du Plus que Tout. C'est là où les personnes vont se signaler comme étant demandeurs d'asile à Évreux. Et ensuite, ils vont à la préfecture de Rouen, puisque c'est au guichet unique des demandeurs d'asile, et c'est là qu'ils savent s'ils sont en procédure normale, accélérée, ou s'ils sont dublinés. Là, s'ils sont dublinés, ils n'ont pas de chance, ils ne peuvent pas demander l'asile en France. Donc, ces personnes de France Terre d'Asile seront présentes sur le plateau pour nous parler un petit peu justement du droit d'asile en France et de la façon dont elles peuvent accompagner les personnes quand elles sont dans le cursus d'une procédure normale. Elles les accompagnent jusqu'au bout de leur procédure d'asile. Il y aura aussi donc Benjamin Gaudret du réseau d'éducation sans frontières qui lui sera là pour nous parler plutôt des mineurs non accompagnés et de leur possibilité. Eux, normalement, on ne demande pas asile quand on est mineur, mais ils le demandent quand ils deviennent majeurs, et puis de l'accueil qu'on réserve en France à ces mineurs. Ces délinquants, disent certains hommes politiques, quand on parlait tout à l'heure de la façon dont étaient un petit peu instrumentaliser et puis dénoncer certaines catégories. Les mineurs non accompagnés, alors ce sont d'abord des enfants. J'aime pas quand on les appelle les MNA, parce que ce sont des enfants, ce sont des mineurs. Et puis il y aura aussi des témoignages, donc Bob, que je connais bien, que j'ai accompagné, qui est toujours demandeur d'asile et qui attend de passer devant la Cour nationale du droit d'asile, mais il vous racontera tout son parcours et puis tout ce qu'on a pu faire ici depuis son arrivée en France, parce qu'il est quand même à l'université, et voilà. Et puis, je vous aurai Doriane aussi qui viendra témoigner de son parcours, puisqu'elle, elle avait fui la RDC en passant elle avait été réfugiée en Afrique du Sud, et puis suite aux émeutes xénophobes en 2015 d'Afrique du Sud, elle a été obligée de fuir l'Afrique du Sud et elle est venue demander asile en France, où elle s'est retrouvée dublinée, et puis elle a réussi, grâce à la pandémie, à repasser en procédure normale et elle a eu la protection subsidiaire. Donc là, elle, tout va bien, elle vient d'avoir son appartement, elle va vous témoigner un petit peu de son parcours. Et en troisième plateau, on a décidé de discuter un peu tous ensemble avec une nouvelle invitée, c'est Sarah Guinoubi du Secours catholique, qui a ouvert un petit peu la voie à des discussions pour toutes les personnes qui accueillent les immigrés à Évreux en ce moment. Et on a eu des réunions depuis le début de l'année, une fois par mois, avec justement les gens de France Terre d'Asile, avec d'autres associations, toutes confrontées à l'accueil des personnes immigrées et au non-respect de certains droits, dont le droit notamment à l'hébergement, etc., et aux difficultés auxquelles on est confronté, et comment on peut améliorer les choses en France, tous ensemble, voilà, pour accueillir les migrants. Donc ça sera l'émission de jeudi prochain.
Jeudi prochain, jeudi 30, 18h, 19h30, en direct sur l'antenne de Principe Actif. Bon, après, l'émission sera mise en podcast sur le site, mais écoutez-nous en direct, c'est aussi bien. Et juste une petite info, parce que la Clarlise vous a déjà donné, je suppose, l'eau à la bouche, comme on dit, pour nous écouter jeudi. Mais dernière info, en fait, l'émission sera diffusée en direct depuis les locaux du Secours catholique à Évreux, qui nous accueille à cette occasion. Voilà, ouais. Donc merci à eux. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on vous la rappelle, c'est notre foire aux livres de dimanche prochain, dimanche 3 juillet, 10h à 17h sur la place ou le parking de l'espace Saint-Léger, devant le local d'Amnesty International. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas, plein de bouquins à acheter pour vos vacances, enfin etc. Encore une fois, des prix très 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 modiques. Et puis c'est aussi une façon de soutenir les actions d'Amnesty International et d'y participer. Et aussi, si vous avez un peu de temps et si vous avez envie de faire un peu d'exercice le dimanche matin ou le dimanche soir, de venir nous aider pour préparer l'exposition, sortir les bouquins, etc. Et donc à partir de 7h, 7h30, ce sera plus raisonnable le dimanche matin, et à partir de 17h30 le dimanche soir.
On est
soir.
Obligé des fois d'attendre 7h30 puisque ce sont les gens de la ville qui viennent quand même nous monter les marabouts. Et ils arrivent le matin. L'année dernière, ils nous ont fait la surprise d'arriver qu'à 8h. Oui, c'était un petit peu ric-rac pour installer tout.
Je pense que ce sera, j'ai pas encore la confirmation de l'horaire, mais je pense que ce sera à peu près la même chose cette année. Je n'ai pas trop d'illusions.
Donc, si vous êtes en pleine force de l'âge, si vous avez beaucoup de dynamisme, si vous avez envie de venir donner un petit coup de main dans la bonne humeur, venez nous prêter vos bras, venez nous aider, soit le matin à l'installation, donc entre 7h30 et 9h, 9h30, parce qu'après, souvent on dit que c'est ouvert à 10h, mais il y a du public qui arrive un petit peu avant, dès qu'ils voient que les livres sont installés. Et puis, le soir, on a besoin d'aide aussi. Alors, sachant que nos locaux, en fait, on a des petits diables, hein, et on met plusieurs caisses dessus, et on les emmène dans les locaux qui sont juste à côté du parking, hein, qui sont à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de manutention, et plus on est nombreux, plus ça va vite. Et puis voilà, un petit peu d'énergie, si vous savez pas quoi faire pour les droits humains, consacrez-nous, aidez-nous, soit le matin, soit le soir, soit les deux, soit les si deux. Vous avez la pêche.
Voilà. Tout à fait. Donc voilà. Et puis, nous, on se retrouve sur l'antenne de Principe Actif à la rentrée du mois de septembre. Donc, j'avais noté, mais j'ai déjà perdu la date. J'avais noté.
Ça sera sans doute le premier mardi de septembre.
Non, le deuxième. J'avais noté la date de la reprise, mais bizarrement, je ne la retrouve plus. Si, je la retrouve, c'est le mardi. On reprend l'antenne pour les émissions d'Amnesty le mardi 13 septembre 2022, de 19h à 20h, en direct sur l'antenne. Mardi 13 septembre. Mais pendant les vacances, ce n'est pas une raison, puisque nous, on ne sera pas à l'antenne, c'est pas une raison pour ne plus vous intéresser aux droits humains, surtout pas. Et donc je vais vous donner, et puis on va rendre l'antenne juste après, et on va vous donner quelques conseils d'occupation tout à fait militantes et tout à fait intéressantes pendant les vacances. Il y a Amnesty International France a commencé à mettre en ligne des podcasts, donc c'est des émissions de radio sur internet, hein, vous savez tous ce que c'est que des podcasts, qui sont sur le site d'Amnesty, mais aussi sur plein de plateformes de podcasts, comment ça s'appelle, le YouTube, Deezer, etc. Et tout ça, c'est gratuit. Des podcasts qui sont réalisés par Amnesty International France et Radio France, et qui sont de qualité remarquable. Il y a deux séries de podcasts qui ont déjà été publiées. Un sur la situation en Égypte et les victoires qu'on a obtenues grâce à la libération de Rami Chat et de Solafa Magdi, de personnes qui étaient injustement emprisonnées en Égypte. Donc ça raconte toute l'histoire. Et puis après... Oui, il y a Clarisse qui me fait signe que la pendule tourne.
On va se faire quicker par l'automate.
Non, mais je termine. Et le deuxième podcast, série de podcasts, donc, est consacré aux droits des minorités LGBT en Pologne, avec là aussi une victoire qu'on a obtenue en déclarant nulle la mise en occupation, mise en occupation de plusieurs femmes qui étaient militantes LGBT en Pologne. Donc n'hésitez pas à aller voir ces podcasts, hein, c'est très facile à trouver sur le site d'Amnesty.fr. Vous tapez podcast sur la page d'accueil et vous tombez directement dessus.
Et voilà. Sur le site d'Amnesty, il y a toutes les pétitions en ligne que vous pouvez signer si ce n'est pas déjà fait.
Tout à fait. Et il y a aussi d'autres actions, n'hésitez pas à farfouiller, enfin, etc. Les actions réservées aussi aux militants, etc. Vous pouvez en faire certaines, il n'y a pas de problème, qui sont pour le grand public. Écrire des lettres, c'est aussi possible pendant les vacances, etc., etc. Donc surtout, ne baissez pas la garde par rapport aux droits humains, parce que plus on baisse la garde par rapport aux droits humains, plus on en perd. Voilà.
Et pensez à découvrir Juliette Nourridine pendant vos vacances.
C'est ça.
Vous verrez,
donc,
c'est beau.
Donc là, on va rendre l'antenne. Hein. On est très content de cette saison entière, depuis le mois de septembre, deux fois par mois sur l'antenne de Principe Actif. Et on recommence à la rentrée. Un petit coup de chapeau à nos amis de Principe Actif. On rappelle aussi que les podcasts des émissions d'Amnesty sont tous sur le site de la radio, dans la rubrique internationale, la rubrique Amnesty International. Et que les podcasts Fréquences Droits Humains sont aussi sur le site de la radio, à la rubrique Fréquences Droits Humains. Évidemment. Voilà.
Eh bien, on vous dit au revoir et bonnes vacances à vous.
Bonnes vacances et à très bientôt.
Et à bientôt à la foire à tout. À la foire aux livres.
C'est ça.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.